file est 22h30 en temps universel, 23h30 ici à Paris, le journal.
Afrique Soir sur RFI, Pierre Boudias.
Combat toujours en cours dans l'est de la RDC, les rebelles du M23 poursuivent leur avancée dans le nord Kivu. Les milices alliées aux forces congolaises ont été contraintes de se retirer d'une localité du Lubero. La police sud-africaine fait le siège de mineurs illégaux. Les forces de l'ordre ont coupé vivres et approvisionnement à ces travailleurs retranchés dans un puits abandonné. 600 interpellations ont déjà eu lieu. J-2, avant la présidentielle américaine, une élection suivie avec plus ou moins d'attention par la diaspora afro-américaine. Au Ghana, ces expatriés aussi entre inquiétude et désintérêt. Et puis les problèmes s'accumulent pour Joel Embiid, absent des terrains depuis le début de la saison de NBA. Le basketteur camerounais fait l'objet d'une enquête de la Ligue américaine. Le pivot aurait insulté et menacé un journaliste. Les combats se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 ont pris ce dimanche le contrôle de l'agglomération de Kamandijit, située dans le territoire de Lubero, au nord Kivu, une ville à 130 km au nord de Goma, dont la milice soutenue par le Rwanda s'est emparée après de violents combats contre les Wazalendo, combattants alliés à l'armée congolaise, et ce, malgré un cessez-le-feu négocié par l'Angola. À Goma, précision Héritier Baraka.
Selon des sources concordantes, les rebelles du M23 ont mené une attaque surprise à Kamandijit aux premières heures du jour hier matin, visant les positions de Wazalendo. Après des tirs à l'arme lourde et légère, ils ont réussi à prendre l'agglomération selon des sources locales. Ils étaient plusieurs centaines, ils sont bien équipés, a déclaré sous couvert d'anonymat un membre de la société civile de Kamandijit, et aurait visiblement l'intention de se diriger vers Butembo, peuplé de 35 000 habitants. Kamandijit est en effet situé au bord du lac Édouard, qui ouvre une voie vers les territoires de Beni et la ville de Butembo, plus au nord de la province. L'offensive des rebelles a entraîné de nouveaux déplacements de la population. Des tirs nourris étaient encore attendus dans la zone en début de soirée de l'autre côté de la ville, vers Kamandiport. Des affrontements en cours, alors que le processus de Luanda vient d'enregistrer une avancée. Les experts de la RDC et du Rwanda se sont en effet mis d'accord sur un plan de désengagement des forces et la neutralisation des FDL. Un accord que les ministres doivent encore valider le 16 novembre prochain à Luanda. Héritier Baraka, Goma, RFI.
D'autres combats sont signalés dans le territoire de Massissi, dans la localité de Kaira. Plusieurs habitants témoignent de tirs à l'arme lourde ce dimanche soir. La foudre fait 14 morts en Ouganda, bilan du passage d'un orage sur le camp de réfugiés de Palabek, dans le nord du pays. Âgés de 14 à 18 ans, les victimes s'étaient réfugiées dans une église de fortune en compagnie d'une cinquantaine de personnes quand les éclairs ont frappé. Elles étaient en majorité originaires du Sud-Soudan, selon le responsable du district de la région de Lamu. Il assure travailler avec le Haut Commissariat aux réfugiés pour venir en aide aux survivants. N'Djamena menace de se retirer de la force multilatérale mixte contre Boko Haram autour du lac Tchad. Dans un communiqué, la présidence tchadienne dénonce une absence de mutualisation des efforts et une force qui, je cite, « semble tomber dans la léthargie ». Créée en 1994 à l'origine pour lutter contre le banditisme, elle comprend des éléments des armées nigériennes, camerounaises, béninoises et tchadiennes. Ce coup de pression intervient alors qu'au moins 40 soldats tchadiens ont perdu la vie dans une attaque attribuée à Boko Haram autour du lac Tchad dimanche dernier. En Afrique du Sud, ils sont encore des centaines à être retranchés dans un puits de mine abandonné des travailleurs clandestins de la ville aurifère d'Orkney dans le district Klerksdorp que la police cherche à déloger. Pour ce faire, les forces de l'ordre ont coupé leur ravitaillement en eau et en nourriture. Au moins 600 personnes auraient été arrêtées à leur sortie et la police espère donc des centaines d'autres interpellations. Précision Sidi Yansané.
Selon l'AFP, les agents de la police sud-africaine ont décidé de couper les vivres aux clandestins cachés dans ce puits de mine abandonné de la ville d'Orkney. Les forces de sécurité ont bloqué les voies de ravitaillement qu'utilisent les complices des mineurs. Petit à petit, la faim et la soif ont pris le dessus, ce qui a contraint les clandestins à refaire surface avant que les forces de l'ordre ne les arrêtent. Au total, il y a eu 565 interpellations de Zama-Zama. C'est ainsi que l'on surnomme ces mineurs illégaux, généralement originaires des pays voisins. Cette opération de police était toujours en cours ce dimanche afin de pousser des centaines voire des milliers de ces Zama-Zama à regagner la surface. Sur la dernière année, plus de 13 000 mineurs clandestins présumés ont été arrêtés par les forces de l'ordre. La police a également saisi des sommes en espèces mais surtout des diamants bruts pour une valeur avoisinant les 2 millions de dollars.
Sidi Yansané. Les exactions se poursuivent dans le centre du Soudan. Les paramilitaires sont accusés d'avoir tué 13 personnes dans la région d'Al Jazeera ce dimanche. Bilan d'une attaque des forces de soutien rapide contre la ville d'Al-Hilalia, selon une source médicale qui s'exprimait sous couvert d'anonymat. Hier, les forces du général Emeti avaient déjà été désignées responsables d'un massacre ayant fait 12 victimes dans la même région. Les échanges commerciaux entre la Turquie et le continent africain ont dépassé 35 milliards de dollars, annonce du ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan lors d'un sommet à Djibouti. Il a réuni 14 pays du continent, parmi lesquels l'Angola, le Tchad, la RDC ou encore l'Égypte. Le diplomate s'est félicité d'une approche globale pour renforcer le partenariat entre Ankara et les États africains. Il a également appelé les participants à soutenir la cause palestinienne. RFI, il est 22h35 en temps universel et à Accra, 17h35 à Washington, les États-Unis qui retiennent leur souffle à deux jours de la présidentielle. Ce mardi 5 novembre, les électeurs devront choisir entre Kamala Harris et Donald Trump pour un scrutin décisif. Une élection scrutée partout autour du monde et notamment au sein de la diaspora afro-américaine installée sur le continent. Ils sont des milliers à s'être expatriés au Ghana ces dernières années, notamment pour fuir un racisme qu'ils ressentaient aux États-Unis. Alors, quelles pensées traversent ceux qui ont quitté leur pays à la veille de cette élection? Reportage à Accra de notre correspondant Victor Cariou.
Voici près de 5 ans que Wanida Lewis et Daryl Landy ont quitté les États-Unis pour venir s'installer à Accra. Un choix motivé par une volonté de renouer avec leurs racines africaines, mais aussi de s'éloigner de tensions raciales croissantes. Et ce n'est pas cette élection qui, selon eux, risque d'améliorer la situation.
Si Kamala Harris gagne ce mardi 5 novembre, certaines personnes vont devenir folles.
Et si Donald Trump gagne, ce sera pire. Je suis terrifié sur ce qui pourrait arriver à ma famille qui est encore là-bas. J'espère qu'ils ont encore leur passeport.
En cette veille de scrutin présidentiel, les demandes d'Afro-Américains souhaitant s'expatrier au Ghana se multiplient. C'est ce qu'affirme Diallo Sumbri, président de l'Association des Afro-Américains du Ghana. Celle-ci compte plus de 300 expatriés, un groupe loin d'être homogène quant au choix du candidat.
Certains pensent que l'institution de la présidence elle-même est raciste et baigne dans le suprémacisme blanc. D'autres croient toujours au rêve américain. Il est cependant certain que l'excitation d'avoir potentiellement la première femme afro-américaine présidente est différente de celle lors de l'élection de Donald Trump en 2020.
D'autres membres de la diaspora afro-américaine interviewés par RFI disent quant à eux ne plus s'intéresser à la situation de leur ancien pays. Seul compte maintenant le Ghana et son élection présidentielle le 7 décembre. Victor Cariou, Accra, RFI.
Et puisque l'on parle de cette élection, sachez que la démocrate Kamala Harris annonce avoir déjà voté par correspondance. RFI, bien sûr, en édition spéciale des mardis soirs pour suivre au plus près ce scrutin historique. On reste aux États-Unis où un autre feuilleton continue de faire la une, celui de Joel Embiid. Nous vous en parlions hier dans Afrique Soir. Le basketteur camerounais se remet d'une blessure au genou depuis le début de la saison de NBA et il est désormais sous le coup d'une enquête de la Ligue américaine. Hier, sa franchise affrontait les Memphis Grizzlies. Ils se sont inclinés à domicile 124-107 devant Joel Embiid qui a assisté au match en tribune. Après cette défaite, la vedette des Philadelphia Sixers a eu une altercation avec un journaliste. Précision de Florence Valmé.
Les faits sont survenus dans les vestiaires des Sixers. Joel Embiid a pris à partie un journaliste du Philadelphia Inquirer, Marcus Hayes. En cause, un de ses articles où il mentionnait le fils d'Embiid et son frère décédé et où il se questionnait sur la détermination du Camerounais à revenir au meilleur de sa forme. Ce que le champion olympique n'a visiblement pas apprécié. Selon le journal L'Équipe, Joel Embiid a déclaré, je cite, « La prochaine fois que vous parlerez de mon fils et de mon frère décédé, vous verrez ce que je vais vous faire et je vais devoir vivre avec les conséquences. » Puis il aurait bousculé le journaliste au niveau de l'épaule. Un responsable des relations publiques des Sixers se serait alors interposé. La NBA va donc chercher à comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Une altercation qui survient dans un contexte tendu. Le début de saison est compliqué. Les Sixers ont encaissé 4 défaites en 5 matchs.
Florence Valmé, sport toujours, et la fin ce dimanche du Tour cycliste du Faso. Une 35e édition marquée par une dernière étape reliant Boussé à Ouagadougou. Si c'est le Malien Timoko Diamoutene qui a remporté ce sprint final, le maillot jaune est lui resté sur les épaules de Morcine El Kouraji. Le Marocain succède au Burkinabé Paul Daumont au palmarès. Podium d'ailleurs 100% marocain puisque Driss El Alouani et Adil El Arbaoui se sont respectivement classés 2e et 3e. Et puis du sport toujours, et Sheila Cheb-Kirui remporte le marathon de New York. La coureuse kényane de 33 ans valide son premier succès majeur en 2h24 minutes et 35 secondes après une dernière accélération qui a laissé derrière sa compatriote Hélène Obiri. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vos programmes continuent sur Radio France Internationale.